Chapitre 52. Audra et Lucie empruntèrent le pont neuf en silence. Elles étaient attendues pour 11 heures au laboratoire de police scientifique situé quai de l'horloge à 2 pas de l'ancien 36. En contrebas, la scène se résumait à une vaste traînée brune qui charriait des déchets. Les bateaux-mouches s'étaient envolés, certaines péniches restaurant ballottées au gré des flots. Le niveau de l'eau atteignait 6,88 mètres et, d'après les experts, il ne montrait plus. La décrue devait s'amorcer dans les jours à venir, mais la galère était loin d'être terminée. En attendant, Paris tout entier tournait au ralenti. Tout le monde, sauf eux. Cindy Bouchard, une technicienne de laboratoire spécialisée dans l'ADN, les accueillit. Entre les murs de l'unité de traces ADN, on analysait la plupart des objets, vêtements ou matières biologiques en rapport avec une affaire criminelle. On scrutait chaque élément. On y cherchait des traces de sperme, sang, poils, cellules dont on extrayait et analysait le code génétique afin de pouvoir mener des requêtes dans les fichiers. Bouchard les emmena non pas dans le laboratoire à proprement parler, ce qui aurait exigé qu'elles enfilent des tenues et se fassent prélever leur ADN pour éviter toute contamination, mais dans une salle annexe aux conditions de sécurité beaucoup moins strictes. Elle leur présenta les 2 phalanges plongées dans leurs bocaux, posées sur une paillasse. « Concernant ses doigts, tout d'abord, nous avons comparé l'ADN du doigt masculin à celui prélevé sur le cadavre d'Arnaud de Monchaux. Il s'agit du même ADN. Pour la phalange féminine, nous avons dressé un profil et transmis les éléments à votre service. »«
Parfait. »
Bouchard la regarda du coin de l'œil. C'était une femme courte sur pattes, aux joues pleines et roses, avec des lunettes extravagantes au grand verre et à la monture rouge vif, comme son rouge à lèvres. À la demande du juge, nous avons envoyé ce week-end un échantillon ADN du doigt féminin et un autre prélevé sur Arnaud de Monchaux au labo de Bordeaux. Apparemment, leurs spécialistes travaillent dessus pour établir des liens biologiques avec le petit Lucas.
« Oui, on est au courant, » répliqua Lucie. « Il y a tout un pataquès autour de ce bébé. »
Bouchard les conduisit auprès du matériel récolté dans le laboratoire souterrain de De Monchaux. Les kits avaient été sortis de leur carton et leur contenu méticuleusement disposé sur la paillasse. Une notice en anglais, des boîtes de pétri, des pipettes, des gants en nitrile, un flacon avec une étiquette « non pathogénique » E. coli bacteria et divers ustensiles qui semblaient sortis d'une boîte de jeu.
Ce sont ce qu'on appelle des kits CRISPR. Ils pullulent sur Internet pour quelques centaines de dollars et sont conçus pour être utilisés sans formation, comme une recette de cuisine. De quoi jouer les apprentis sorciers.
La découverte CRISPR-Cas9 est certainement la plus grande boîte de Pandore jamais ouverte dans le monde de la microbiologie. Les services de santé et comités d'éthique de différents pays, notamment européens, commencent à regarder la chose de très très près. Des procès en Allemagne sont déjà ouverts contre la commercialisation de ces kits. À mon avis, il y a plus qu'urgence.
CRISPR quoi ?
CRISPR-Cas9. Ça se prononce Cas9, mais ça s'écrit CAS9. Une technique découverte en 2012 par un duo franco-américain de chercheurs. Elle est devenue un enjeu économique faramineux en biotechnologie. Une révolution. Elle permet de modifier, supprimer ou ajouter des informations sur un brin d'ADN avec une grande précision pour 3 fois rien et de façon extrêmement simple. Des milliers de laboratoires à travers le monde s'en sont emparés. Elle alla chercher un livre dans la poche d'une blouse. « Les raisins de la colère » de Steinbeck.
« Ma lecture du moment va vous aider à comprendre. Représentez-vous le contenu de ce livre comme la séquence ADN d'une cellule. Une succession de millions de lettres qui, assemblées, forment des instructions, des phrases concernant ce livre, des gènes d'un point de vue biologique. Supposez que vous vouliez modifier un mot précis de la quatrième ligne, page 221. Remplacer « maison » par « demeure », par exemple. Avant l'invention de la technique CRISPR, cela aurait demandé du temps et des moyens énormes. Aurait été réalisable seulement dans des laboratoires dernier cri. Grosso modo, il aurait fallu réécrire une partie du livre rien que pour effectuer cette modification. Aujourd'hui, elle désigna trois flacons issus du kit. C'est beaucoup plus simple. Voici en quelque sorte l'équipe de choc qui va aller faire le boulot. Il y a la tête chercheuse biologique qui connaît la page, la ligne et le mot exact que vous voulez modifier. Elle montra le second flacon. Voici le ciseau, une enzyme qui va découper ce mot. Troisième flacon. Et il y a le pansement qui va remplacer maison par demeure. Pour simplifier à l'extrême, vous versez ces flacons dans un autre flacon qui contient l'ADN à modifier et vous laissez agir. C'est mieux que la lessive. Lucie et Audra échangèrent un regard de stupéfaction. Les propos de la scientifique étaient sidérants. On parle de kits vendus en ligne et permettant de faire des manipulations génétiques ? Fit Audra. C'est le sujet, en effet. Ce kit, par exemple, vous livre tout ce qu'il faut pour rendre fluorescentes des bactéries E. coli non pathogènes, livrées dans la boîte avec le reste du matériel. Ça paraît anodin, mais c'est une sacrée prouesse technique. Vous voulez dire que des bactéries de type E. coli franchissent les frontières dans de simples colis Amazon ? Aujourd'hui, oui, sans problème. C'est effroyable, je sais, de pouvoir faire acheminer ce genre de choses et Mein Kampf dans le même colis sans que personne ne se pose de questions. J'ai fouiné un peu. Les kits en possession de votre homme ont été envoyés par Amazon, mais ils proviennent en réalité d'un gros laboratoire, World DNA, qui utilise le site marchand comme une plateforme de diffusion. Ce labo est un vrai monstre. Il a la mainmise sur le marché mondial de l'ADN et s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels. Sa base de données de génome humain est gigantesque. World DNA, le laboratoire à qui l'ange du futur avait envoyé l'empreinte du président, se rappela Audra. Attention, tout n'est pas aussi simple que ce kit, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, pour aller plus loin dans la manipulation génétique avec des organismes plus complexes, il faut les bons ciseaux, les bonnes têtes chercheuses, le bon matériel et les compétences. Mais des entreprises, dont World DNA d'ailleurs, se spécialisent dans la fabrication de ces outils qu'elles revendent ensuite à des laboratoires. Je vous laisse entrevoir le potentiel de la technique. Une entreprise américaine a créé une vache sans cornes. Des essaims de moustiques ont été immunisés contre le paludisme. Des rats atteints de cécité ont pu recouvrer en partie la vue. Une équipe de Harvard travaille même sur un projet pour recréer un mammouth. Tout ça grâce à CRISPR. Quant à Arnaud de Monchaux, Bouchard les emmena devant un vivarium où gesticulaient les deux souris musclées. Il semblerait qu'il ait commandé les bons ciseaux, la bonne tête chercheuse dans je ne sais quel laboratoire de la planète, peut-être World DNA, je ne sais pas, et bingo! Suppression du gène codant la myostatine, celui qui limite la croissance musculaire. Donc de Monchaux serait à l'origine de la musculature de ce chien? Probable. Il l'a fabriqué lui-même. Mais il n'a pas pris un chien déjà développé pour fabriquer ce monstre. Non, un tel développement musculaire uniforme implique une intervention à un stade embryonnaire précoce, à un moment où il y a encore peu de cellules, afin que toutes puissent être affectées par les ciseaux avant de se dupliquer. C'est là que la manipulation demande du savoir-faire, des connaissances. Arnaud de Monchaux n'était pas le premier venu. Il possédait le bon matériel, dont un thermocycleur et une centrifugeuse qui permettent de manipuler l'ADN et de le multiplier. Ça aussi, ça se trouve sur Internet à un prix plus que raisonnable. Mais votre homme a un minimum de compétences pour agir au stade cellulaire. Vous savez où il travaillait ?
Dans une entreprise qui fournit du matériel médical, répliqua Audra.
L'un de nos collègues est en train de vérifier, mais de Manchot était, selon toute vraisemblance, commercial là-bas. Ce matos, il l'a peut-être vendu à lui-même.
Audra réfléchissait. Des compétences. Ça correspondait aux propos d'Alric Sioblad. Certains biohackers avaient de solides connaissances et pouvaient donc aller plus loin dans leurs expériences en dehors de tout cadre légal.
De Manchot présentait des traces d'injection au niveau des biceps, ajouta-t-elle. D'après le légiste, ses muscles étaient difformes, inégalement développés, et l'homme semblait avoir une sacrée force vu les poids qu'il soulevait. C'est CRISPR, à votre avis ?
La biologiste plissa le nez, puis acquiesça.
Pas impossible. Il a peut-être essayé de bloquer sa propre production de myostatine en s'injectant au petit bonheur la chance une solution contenant des millions de ciseaux et têtes chercheuses dupliquées grâce à ses appareils. Un être humain peut vivre sans myostatine. La preuve, un jeune Indien, Liam Hoekstra, est connu exclusivement pour ça. On l'appelle X-Boy ou Superhuman Child. À cause d'une erreur dans son gène codant la myostatine, il est né sans cette protéine. Une erreur, certes, mais qui en fait un être doué d'une force incroyable. Avant l'âge d'un an, Liam était capable de soulever le poids de son corps lorsqu'il attrapait une barre en hauteur. Aujourd'hui, à 11 ans, sa masse musculaire est une fois et demie supérieure à la normale. Mais contrairement à De Manchot, le gamin est né avec sa mutation, qui est donc présente dans toutes les cellules de son corps. De Manchot, lui, essaie de la provoquer, mais il ne peut agir que localement, dans les cellules situées autour de la zone d'injection. Vous comprenez bien qu'un paquet de ciseaux, même à des millions d'exemplaires, et injecté au niveau du biceps, ne va pas voyager dans le corps et aller découper les milliards de cellules qui constituent la totalité d'un être humain. Elle les invita à sortir de la pièce. De Manchot était peut-être brillant, mais sacrément inconscient pour oser ce genre de choses, poursuivit Bouchard.
Il s'est coupé le doigt. Il a tué un homme au fond d'une fosse et peut-être une femme il y a 3 ans. D'après nous, il était prêt à tout pour aller au bout de ses convictions.
Sans doute, mais CRISPR n'est pas sans risque et la technique doit encore être améliorée. Aujourd'hui, il arrive que les ciseaux se trompent de cible, que le pansement fonctionne mal, ce qui provoque des mutations génétiques inattendues. Par exemple, la drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine, est due à la modification d'une seule lettre dans l'ensemble de l'œuvre de Steinbeck. Bref, vous l'avez compris, tout cela reste très dangereux et peut mener à des aberrations, des monstruosités, si on n'y prend pas garde. On ne joue pas avec le génome de cette façon.
Des monstruosités. Lucie revit les dessins sur le cahier du punisseur. Cette farandole de fœtus déformé se tenant la main. Était-ce juste un fantasme ou ces êtres minuscules avaient-ils existé? Elle pensa au petit Lucas, à sa mère qui restait introuvable et aux mots qu'elle avait prononcés le soir de sa rencontre avec Bertrand le Sage. « Il est spécial, ce bébé. Votre anonymat sera sa meilleure protection. »
« Et les manipulations sur les embryons humains ?» demanda-t-elle.
Cindy Bouchard afficha un visage grave.
« On y vient, forcément. Ça a déjà eu lieu en Chine sur des embryons non viables pour raisons éthiques. Mais pas plus tard qu'en août, des Américains ont modifié, toujours grâce à CRISPR, le gène responsable d'une maladie cardiaque sur des embryons viables cette fois.
Je parle là de ces mêmes Américains qui ont ajouté les modifications génétiques à la liste des armes de destruction massive. Et ça, c'est ce qu'on veut montrer. Vous savez, il peut s'en passer des choses dans les laboratoires.
C'était d'autant plus vrai avec les biohackers et adeptes du « do it yourself », songea Audra. Ils voulaient aller vite, court-circuiter les protocoles, et CRISPR leur donnait accès au Graal des biologistes, le génome humain. Elle se rappelait les propos de l'ange. « Nous vivons, nous ne fonctionnons pas. Nous sommes nés non fabriqués. Dans quel monde sommes-nous tombés pour que la vie se crée dans des éprouvettes? Les chimpanzés qui contredisent les lois de la nature doivent payer. »
« Et je suppose que tout cela intéresse les transhumanistes ?» demanda Audra.
Évidemment. Avec CRISPR, la question de l'amélioration est au cœur de tous les débats actuels. Avec une maîtrise parfaite de la technique dans les années à venir, serait-il éthique de laisser des enfants naître avec des maladies terribles telles que la mucoviscidose, la maladie de Huntington, certaines formes de bêta-thalassémie ? Et pourquoi pas en même temps les rendre plus résistants au rhume et à certaines bactéries ? Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est limpide, répliqua Lucie. On en profite pour améliorer de petites choses au passage, ou on crée comme de manchots des chiens surpuissants.
Exactement. À tous ceux qui hurlent au scandale, les transhumanistes répondent que nous sommes depuis longtemps dans la sélection, et quelque part dans une forme d'eugénisme. N'existe-t-il pas l'amniosynthèse pour la détection de la trisomie 21, par exemple ? Et que dire du DPI, le diagnostic préimplantatoire pour les parents à risque lors d'une fécondation in vitro ? On détruit les embryons atteints d'une tare génétique héréditaire et on ne réimplante chez la future mère qu'un embryon sain. Autrement dit, on garde les bons et on élimine les mauvais.
Ça ne vous rappelle rien ?
Audra essayait d'établir des liens entre l'enquête et les propos de la scientifique. Elle sentait qu'ils étaient là, au bord de son esprit, mais inaccessibles. Les trois femmes avancèrent dans le couloir.
Un certain nombre de scientifiques considèrent que cette technique détient le potentiel de transformer l'humanité, poursuivit la biologiste. Avec elle, l'homme va de plus en plus déjouer les règles de la sélection naturelle dictées par la nature. Choisir ce qui lui plaît et rejeter le reste. Notre patrimoine génétique ne sera plus quelque chose que l'on subit. Au contraire,
on le maîtrisera totalement.
Oui, on passera de la chance au choix. Et tout va très vite, avec la collecte des génomes humains à travers le monde comme le fait World DNA, la baisse du coût des séquençages et la puissance de calcul des machines, on enrichit le Big Data. Avec cette immense base de données, dont les échantillons proviennent du monde entier, on comprend de mieux en mieux les différences entre les êtres, les communautés, et on décode de plus en plus vite les mystères de la vie. Quand les verrous éthiques se mettront à sauter, il n'y aura plus de limite.
Elle se trouvait dans le hall d'entrée.
Le revers de la médaille, c'est que ces avancées fulgurantes vont créer une médecine à deux vitesses. D'ici quelques années, les riches pourront se prémunir, eux et leur progéniture, contre toute une série de maladies potentiellement mortelles, tandis que les pauvres n'y auront pas accès. Peut-être supprimera-t-on le handicap, mais l'amélioration des facultés des plus riches fera des plus pauvres les handicapés de demain. Ceci n'est guère réjouissant, mais voilà vers quoi nous allons. Dans quelque temps, la nature n'aura plus son mot à dire.
La laborantine tendit la main et les salua.
« Bon, je retourne à mes pipettes. Je vous tiens au courant pour la suite. »
« Merci, » répliqua Lucie.
« Ah, une dernière chose. Le mythe de Prométhée, ça vous parle ?»
Bouchard acquiesça.
« Bien sûr. On connaît ça, nous, les scientifiques. Prométhée offre le feu à l'homme, un outil qui l'aide à progresser si vite qu'il le conduit à sa perte. Si on l'interprète à notre façon, on doit accepter qu'un progrès scientifique majeur puisse aussi s'accompagner d'une catastrophe. Pensez à Tchernobyl. La prétention des hommes à perfectionner la nature au point de trouver les secrets ultimes du monde et leur orgueil entraîne obligatoirement une forme de destruction collective. C'est ce que les anciens interprétaient comme la vengeance des dieux. Elle les abandonna à leurs réflexions et s'éloigna. Les deux flics sortirent et Lucie se remémora la scène de crime de Bondy. Qu'avez-vous lui signifié de Monchot? Qu'avait découvert Chevalier? Avait-il volé le feu comme Prométhée et avait-il été puni pour ça? Un timide rayon de soleil lui chauffa le visage. Elle fixa le fleuve aux mille reflets dont le cours était sourd aux masses d'eau destructrices et comprit le sens de cette crue. Face au progrès, à la folie des hommes, la nature avait décidé de ne pas se laisser faire. Cette invasion des eaux, c'était une forme d'avertissement sévère, un retour de flamme. On pouvait modifier des génomes ou inventer des machines toujours plus perfectionnées, mais on ne pouvait rien contre la colère de la nature. L'histoire de notre planète en témoignait, ainsi que celle des espèces qui avaient été balayées au fil des millénaires. Si l'homme allait trop loin, la nature saurait se débarrasser de lui.